Bonjour à tous. Parmi tous les attributs de Dieu, lui qui est le créateur de tous, de toutes choses, l'éternel, on pense souvent en premier lieu qu'il est le tout-puissant, omniscient, omniprésent. On dira aussi qu'il est le saint, le juste, le seul sage. Mais il y en a un qui est des plus importants dans notre relation avec lui. Il est fidèle. Alors, dans un passage dans Osée, il est dit « le saint fidèle ». Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme. Et il prend soin de sa création. Il n'a pas tout créé, puis laisser tout se débrouiller. Il y en a qui pensent ça. Hein. L'Éternel Dieu bénit, il pourvoit, il s'occupe de tout. On pourrait dire, bien comme on pourrait dire aujourd'hui, il fait de la maintenance. Mais il le fait avec amour et il le fait avec bonté, avec fidélité. Dieu est fidèle. Ça, c'est quelque chose d'important hein, parmi ses attributs. Hein. Malgré tout, l'homme s'est détourné de lui. Eh bien, l'Éternel, dans sa fidélité, avait déjà pensé à un moyen de le ramener à lui, par amour. Le péché, la désobéissance aurait pu tout gâcher à jamais. Combien de fois le péché gâche tout entre les hommes, entre les femmes, dans tous les domaines de la vie courante. Mais Dieu prévoyait une restauration, une réconciliation, une nouvelle communion au-delà de tout ce que l'homme aurait pu espérer. Alors, on va regarder un verset dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Il est dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a d'abord choisi des hommes pour se révéler à eux. Il a fait des alliances avec eux. Il a fait une alliance avec Abraham et il lui a fait des promesses. Alors, Dieu tient toujours ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Si peut-être nous sommes méfiants vis-à-vis des autres, peut-être parce que nous connaissons notre propre cœur, hein, et on se dit, il m'a fait une promesse, mais est-ce qu'il va la tenir? Pour Dieu, pas de problème. Dieu tient ses promesses, il est fidèle. Alors, pour Abraham, il lui avait promis une descendance, alors il l'avait promis des années avant, jusqu'à ce qu'il ait une descendance à l'âge de 100 ans. Isaac est né, Sarah avait 90 ans et ça paraissait impossible. Dieu avait tenu ses promesses, il avait dit, il a fait. Il a fait une alliance avec ses descendants ensuite, avec Israël. Alors c'est comme un mariage entre un homme et une femme, c'est ça l'alliance avec Dieu, hein. Un époux, une épouse, voilà, c'est une alliance de fidélité. Eh bien, Dieu a fait cette alliance avec Israël. Et quand Israël a trahi Dieu, en commettant l'idolâtrie, Dieu le considérait comme un adultère. Et il était jaloux de son peuple. Quand une femme se marie à un homme, il faut qu'ils soient fidèles l'un comme l'autre. Et donc, c'est une alliance qui ne peut, que l'homme ne peut pas se permettre de briser. Et finalement, Dieu aimait tellement son peuple qu'il a pourvu, béni. Alors, on voit que malgré tout, il a secouru, délivré, mis à l'aise face aux ennemis. Et donc, Dieu s'attendait à ce qu'il soit fidèle, comme une épouse, qu'il respecte son alliance. Mais Israël a été infidèle. Alors, on pourrait se dire, comme nous on fait, même les adultes le font, ils disent, ah tu m'as fait ça, ben moi je te fais ça. Ah, tu m'as trahi, je te trahis. Ah, tu as été méchant avec moi, je suis méchant avec toi. Mais pour Dieu, lui, il pense à son alliance, à son amour, à ces liens qu'il a créés, qu'il veut maintenir. Et donc, l'Éternel Dieu, lui, est resté fidèle, comme il le dit dans sa parole. Alors, je vous lis un verset dans Deutéronome 7:9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu, dans sa fidélité, comme avec une épouse, a toujours voulu ramener à lui son peuple. Nous le voyons à travers sa parole. Nous pouvons lire déjà ce que dit Moïse à son époque. Alors, quelques versets dans Deutéronome 32, 1 à 6, c'est le cantique de Moïse. Il dit, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure. » Comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable ? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Et donc là, on voit que Dieu ne peut être jamais responsable de nos chutes. Au contraire, lui est toujours fidèle. Et il est là pour manifester son amour. Chaque fois qu'Israël s'est détourné de lui, Dieu a tout disposé pour qu'il puisse revenir à lui. Il a envoyé les juges, il a envoyé les prophètes, et il a averti son peuple, chaque fois. Et ce n'est pas tout de suite qu'il a puni, qu'il est intervenu d'une manière colérique en disant, eh bien, je vais te bannir. Il a été toujours celui qui espérait le retour, la conversion de son peuple. Et quand il les a punis, il a dit, je ne peux pas faire autrement. C'est impossible que je fasse autrement, vous êtes allé trop loin. C'est un peu quand nos enfants, pour ceux qui en ont, ou ceux qu'on garde, qui finalement font des bêtises et puis ils disent, bon, ça y est, je t'ai assez supporté. Mais non, c'est pas possible. Si tu vas trop loin, en fait, c'est ce qu'on pense. Eh bien, ça va être grave pour toi. Tu dépasses les limites. Eh bien, pour Dieu aussi, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement que d'intervenir quand son peuple s'est détourné de lui, qui a commis l'idolâtrie, qui a fait des choses mauvaises, qui a blasphémé, qui a imité les nations, qui en fait se corrompait dans la débauche, dans toutes sortes de choses mauvaises. Alors, pour Dieu, lui, il ne se repent pas de ses dons et de ses promesses. Jamais. Et il a ramené chaque fois Israël à lui et il le ramènera encore. Alors, à ce sujet, nous pouvons lire un passage. Alors, je vous le propose dans Ésaïe, au chapitre 54. Alors, on peut lire les versets 4 à 10, puis le 17. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et donc, on voit que Dieu est patient. Et surtout, il est fidèle, fidèle à ses promesses et à ses dons. Mais maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut faire une alliance avec tous les hommes. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est la nouvelle alliance par le sang de Christ. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Faites-vous partie de cette nouvelle alliance. Vous n'êtes pas juif ? Eh bien, vous n'êtes pas juif. Ce n'est pas l'alliance que Dieu attend de faire avec vous. Il l'a fait déjà avec les juifs. Maintenant, c'est une alliance en le sang de Jésus-Christ. Pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors, on peut lire quelques versets au sujet de cette nouvelle alliance. Alors, on va lire dans Hébreux. Alors, c'est quelques passages, quelquefois, on les lit pour la Sainte Cène. Alors, Hébreux 9, 15 à 20. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant survenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Alors on peut lire chapitre 10, verset 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. On peut lire aussi chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dieu a tout fait pour que les hommes soient réconciliés avec lui et qu'ils vivent une communion avec lui qui ressemble à celle que a un mari et une femme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mais combien nous sommes insignifiants dans l'univers, hein, au point qu'il y en a qui croient qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a de tout ailleurs. On se dit, on ne peut pas suffire nous seuls. Et pourtant, mais, Dieu a créé une terre, un univers. Nous sommes créés sur cette terre. Et si minuscule que nous soyons, Dieu nous aime. Nous sommes précieux au point que Dieu veut que nous ayons une union aussi unie que l'on puisse comprendre qu'un homme et une femme ont dans un mariage. Alors, on peut lire cela dans la parole de Dieu, où Dieu fait cette comparaison. Alors, on peut lire Éphésiens 5. Alors, vous pouvez comprendre, un homme et une femme se recherchent, s'aiment, sont unis. Eh bien, Dieu, il veut être aussi près, aussi uni, d'une manière qu'on ne le comprend pas. Alors imaginez, est-ce qu'un inconverti peut comprendre cela? Il ne peut pas. Et nous, est-ce que nous réfléchissons à cela? Tellement c'est profond, tellement c'est merveilleux. Un inconverti va dire, voilà, je fais ça. C'est toujours horizontal, voilà, des pâquerettes. Mais là, c'est le Dieu infini qui s'unit à nous. Et il le fait par Jésus-Christ, ce Dieu fait homme qui s'unit à nous. Alors, voilà ce que dit le Seigneur à ceux qui font partie de cette nouvelle alliance. Chapitre 5, versets 20 à 33. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, au-delà de ce que nous voyons ici, qui est donné de faire à l'homme, qui est donné de faire à la femme dans le couple, eh bien, il est dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, le mariage illustre l'union de Christ et de son Église. Si Kimberly tombe en panne en voiture, eh bien, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va téléphoner à David. Et elle ne va pas téléphoner à quelqu'un d'autre, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais elle va téléphoner à David. Mais oui, je sais pourquoi. Et vous le savez aussi. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Si elle vous téléphonait à vous, elle vous dirait, mais il n'y a pas David qui est là. Et puis, David, il va dire, tiens, j'ai rien à me mettre pour ce dimanche. J'ai même pas une chemise. Mais si j'ai une chemise, regarde, il y en a une dizaine qui sont repassées. Et puis, t'en fais pas, tout va bien se passer aujourd'hui. Tu vas avoir un bon repas. Et c'est moi qui l'ai préparé. Et donc, il y a des questions qui se posent même pas dans un couple, hein. Et c'est une union qui fait que on compte sur l'autre, on dépend de l'autre, on aime l'autre comme soi-même. Eh bien, Dieu nous aime, il a manifesté, et il veut qu'on manifeste cet amour aussi en retour. Alors, je vous pose une question. Peut-on croire, avoir confiance à la fidélité de Dieu? Alors, si vous me dites oui, ben, je suis sûr que si je réfléchis bien dans certaines situations, quand vous vous adresserez à moi, je vous dirai, mais tu ne crois pas à la fidélité de Dieu? Mais j'admets que nous croyons tous à la fidélité de Dieu, de plus que je viens de le souligner, de marquer les versets qui en parlent. Alors, quelqu'un a compté qu'il y avait dans la Bible 8810 promesses. Il y en a 1104 dans le Nouveau Testament. Et 85% sont donnés par Dieu à l'homme. Alors, vous voyez, il y en a des promesses. Alors, peut-on se fier aux promesses de Dieu? Nous, le mardi, on a un petit livre que j'ai trouvé. On lit des promesses de Dieu. C'est un livre qui en a 450. Donc, voilà. Il y en a quelques-unes qui manquent. Hein. Mais, voilà, nous pouvons compter sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et en plus, alors, il est tout puissant pour les accomplir. Si Kimberly téléphone à David pour le chercher parce qu'il est tombé en panne, il va dire, mais je ne peux pas venir, je n'ai pas la voiture. C'est toi qui es là, tu es tombé en panne. Ah, mais bon, il va trouver un moyen, ah, j'ai le scooter, je vais pouvoir venir. Mais ah, je ne peux pas parce que il a crevé. Alors, il va y avoir peut-être un problème pour qu'il accomplisse son devoir de mari au plus vite. Mais pour Dieu, c'est impossible qu'il tarde, qu'il remette sa fidélité à plus tard, pour une raison ou pour une autre, puisqu'il est tout puissant. Et il est fidèle et tout puissant. Alors, quant à nous, quelle est notre position? Voulons-nous être fidèles à Dieu? Nous sommes-nous? Alors j'aimerais lire quelques versets dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens 6. On va lire d'abord la deuxième partie du 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et on peut aller au verset 15. Il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors Paul dit aux Corinthiens, parce qu'il y avait des problèmes, des tensions, certains opposés les uns et les autres, hein. On l'a vu récemment dans 2 Corinthiens, il dit dans 2 Corinthiens 11:2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Sommes-nous fidèles comme l'épouse de Christ doit l'être? Il est dit dans 2 Timothée 2:13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et ça, c'est la force de la nouvelle alliance. Dans 1 Jean 1:9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Car c'est le péché qui nous sépare de Dieu, de Christ. C'est des infidélités que les péchés. Et bien, si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Quand nous lisons le Nouveau Testament, la parole de Dieu, et bien nous voyons que Jésus a été fidèle. Il nous est dit qu'il est le fidèle, le véritable dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il nous dit à nous-mêmes, lui qui est fidèle? Il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il dit ça aux chrétiens de Smyrne. Il dit ça à chacun de nous. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes semblables à Christ. Nous lui ressemblons. Et nous sommes appelés à vivre en son nom, pour lui, pour sa gloire, et à être fidèles à son esprit. Christ veut nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Et il nous dit par Paul, si nous sommes infidèles dans les petites choses, comment Dieu pourra-t-il nous donner les grandes choses? Alors, ayons confiance en la fidélité de Dieu. Vous savez que le mot fidèle, c'est le même mot que foi. Hein? Des fois, il est traduit foi, des fois fidélité. Hein? Mais donc, avoir confiance, avoir la foi en la fidélité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu? Approchons-nous donc sans cesse du trône de la grâce. Voilà ce qu'il nous est dit. Puisque Dieu est fidèle, approchons-nous sans cesse pour tous nos besoins, pour être secourus au bon moment. Alors, pour chacun de nous, eh bien, peut-être il est intéressant d'essayer de connaître ces 8810 promesses, et peut-être les 1104 qu'il y a dans le Nouveau Testament. Mais en tout cas, il nous dit de croire aux promesses de Dieu. Et vous pouvez être sûr que si Dieu l'a promis, ça va se réaliser. C'est valable. Ça tient la route, comme on dit. C'est garanti par le sceau de Dieu. Dieu tient ses promesses. Et pour nous, eh bien, il nous est dit, soyons fidèles. Chacun. Cherchons comment servir Christ le Seigneur. Mettons nos dons en action. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je sois fidèle. Dans 2 Thessaloniciens 3:3, il est dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Et, eh bien, résistons au diable. Le Seigneur est fidèle. On peut le faire. Alors nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, le verset 8 et aussi le 9, le rappeler. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je peux terminer avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est une prière, c'est une promesse. Et c'est merveilleux de savoir qu'il nous donne la force de faire ce qu'il nous demande, d'accomplir sa volonté. Dieu est fidèle, soyons fidèles. C'est merveilleux d'être unis au Créateur des cieux et de la terre, d'avoir été réconciliés avec lui, pardonnés de tous nos péchés. C'est une grâce, nous méritons rien du tout. Mais maintenant, eh bien, marchons avec lui, en nouveauté de vie. Soyons fidèles jusqu'à la mort, et le Seigneur nous bénira. Nous pouvons persévérer, tenir ferme. C'est quelque chose qui est à notre portée, puisque c'est Dieu qui nous le promet. Il nous promet d'être avec nous pour combattre le bon combat de la foi et de persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est alors que nous recevrons la récompense qui nous approuvera et que nous aurons part aux noces de l'agneau, à ce mariage, je pourrais dire, concrétisé devant l'Éternel, devant ses anges, devant toutes les dominations.